Alors ce matin, nous allons continuer dans les évangiles. Il y a 15 jours, nous avons vu la parabole à propos de la veuve et le juge unique. On avait vu l'importance de persévérer dans la prière. Le Seigneur voulait qu'on persévère dans la prière. Il le veut encore, que nous persévérons dans la prière. Aujourd'hui, nous allons voir deux hommes aussi qui vont prier. Et un seul va être exaucé. Mais le but de cette parabole est autre. Nous allons le voir ensemble. Ça se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Luc 18 à partir du verset 9. Luc 18 à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultère, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc on voit le but de cette parabole, on le voit au verset 9, et je vous le lis dans la version Darby, où il est dit, « Il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes comme s'ils étaient justes, et qui tenait le reste des hommes pour rien. » Dans cette parabole, Jésus va dénoncer la propre justice, l'homme qui se croit juste par ses propres efforts, avec toutes ses interdictions et toutes ses permissions. Cet homme se croit juste et, en fin de compte, nous allons voir dans cette parabole ce que le Seigneur dénonce. Et ce qui est très intéressant, c'est que Jésus, il cite carrément la catégorie de personnes qu'il veut viser. Il ne dit pas une personne monte au temple. Non, il dit un pharisien. C'est lui-même qui met le doigt parce qu'il veut enseigner à ceux qui sont pharisiens. Qu'est-ce que c'est un pharisien ? Un pharisien, c'était, d'ailleurs le mot pharisien veut dire séparé. C'est des membres d'une secte juive qui se distinguaient avec minutieuse observance des règles et des traditions des pères. C'était des gens très très pointilleux sur la loi, qu'ils essayaient d'observer le plus possible, même ils avaient rajouté des choses à la loi de Dieu. Et ce mouvement a apparu 140 ans avant Jésus-Christ. Il voulait vraiment être ces hommes pieux. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Nous sommes des membres pieux. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils s'attachaient surtout aux formes de la piété plutôt qu'à la réalité. Oh, il y avait des bons pharisiens où il y avait vraiment une recherche. Un Nicodème, c'était un pharisien. Mais on voit un homme qui avait un cœur qui cherchait la vérité. Et on verra tout à l'heure, à la fin, aussi un pharisien qui a trouvé le Seigneur. Mais Jésus dénonce, malgré tout, la propre justice et il met un nom, voilà, un pharisien. Donc, nous voyons dans ce passage deux hommes qui montent au temple pour prier. Et on nous parle du premier, donc ce pharisien qui arrive devant le temple et debout, on peut supposer qu'il levait les yeux au ciel, et il se met à prier en lui-même. Et c'est très intéressant, il rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu. Il veut dire qu'il attribue à Dieu, voilà, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Mais on pourrait dire que la suite de sa prière va se résumer en deux points. Premier point, c'est qu'il n'est pas, ni ravisseur, je ne suis pas un ravisseur, je ne suis pas quelqu'un d'injuste, je ne suis pas quelqu'un d'adultère, et je ne suis pas comme ce publicain-là qui est là, à côté de moi. Et le deuxième point, ce qu'il fait. Donc, on voit, ça se résume en ce qu'il n'est pas et ce qu'il fait. Et il dit, voilà, je jeûne deux fois par semaine. Tu dois être fier de moi. Vous vous rendez compte? La loi de Dieu préconisait une seule fois. Lévitique 16, le jour des expiations, du grand pardon, du Yom Kippour. C'est vrai que par la suite, dans l'histoire d'Israël, il y a eu des jeûnes qui se sont rajoutés. Mais lui, deux fois par semaine. En principe, c'était le lundi et le jeudi. Et en plus, je paye la dîme de tous mes revenus. Et on sait dans Matthieu 23 qu'ils allaient même payer la dîme jusqu'aux herbes. Donc, Seigneur, tu dois être fier de moi, hein? Formidable, je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un qui t'honore. Je suis quelqu'un qui, bah, tu mérites vraiment, je mérite l'approbation. Je mérite ta grâce. Je mérite que tu me fasses du bien parce que je suis vraiment quelqu'un. Voilà ce que pensait ce pharisien. Mais nous avons vu que tout se résumait en deux points. Juste une petite parenthèse. Hélas, quand je pose la question à quelqu'un, êtes-vous chrétien? Ah oui! Oh oui, je suis chrétien! Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne vais pas au cinéma. Et je vais à l'église. Je prie et je lis ma Bible. Voilà comment il résume ce qu'est un chrétien. C'est plus que ça. Et nous allons voir ça par la suite. C'est plus que faire et ne pas faire. Je voudrais aussi montrer que quelqu'un qui est imbu de sa personne, quelqu'un qui est fier de lui-même, méprise l'autre, montre du doigt l'autre, il critique l'autre, il juge l'autre, il le méprise même. Je ne suis pas comme ce publicain-là. Je ne suis pas comme ces tracailles, si on l'employait en termes d'aujourd'hui. Et généralement, ces personnes-là, elles étaient complètement fermées par rapport à ces personnes-là. Et il ne fallait surtout pas que ces personnes s'approchent d'eux, de peur d'être souillées. À un tel point que, hélas, ces personnes qui avaient des besoins spirituels ne pouvaient pas s'approcher d'eux. Si un homme ou une femme voulait trouver Dieu, ne pouvait pas s'approcher de ces personnes-là. Parce que, ah, t'es un publicain, ne t'approche pas de moi. Et c'est cela qui a créé des conflits avec Jésus. Parce qu'il ne comprenait pas que Jésus, lui, il allait manger chez ces personnes-là. Oui, Jésus allait manger chez ces personnes-là. Oh, ça ne veut pas dire que Jésus, en mangeant avec ces personnes-là, était d'accord avec leurs péchés, hein. Mais Jésus, quand il y allait, c'était dans un but de montrer sa miséricorde, le pardon. Je pense à ce passage de Matthieu où les pharisiens vinrent vire cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Et regardez verset 13 de Matthieu 9. « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde. » Ça, ils ne connaissent pas. D'ailleurs, Jésus va leur reprocher. Vous connaissez. Il n'y a aucune miséricorde en vous. Parce que vous êtes durs. Vous avez le cœur fermé. Et bien souvent, celui qui est imbu de lui-même, il a le cœur fermé, dur. Il ne se laisse même pas enseigner. Et il est dur avec les autres. Aucune miséricorde. Je prends plaisir à la miséricorde. Oh, il y a eu d'autres. À un moment donné, il y a une femme qui s'est mise à pleurer aux pieds de Jésus. Et Jésus était invité chez un pharisien. Et ce pharisien lui dit en lui-même, mais comment cet homme? Il n'est pas prophète, c'est pas possible. Il se laisse toucher par cette femme. Il se rendait même pas compte que cette femme était en train de pleurer. Parce qu'il avait le cœur dur. Et il jugeait Jésus. Et c'est là où Jésus lui a donné cette parabole avec celui qui devait beaucoup et celui qui devait moins. Ou alors Zachée. Quand Jésus était chez Zachée, oh mais pourquoi il était là-bas? Mais il est rentré chez un voleur. Et nous savons que Zachée s'est converti et s'est tourné vers Dieu. Donc vous voyez, la propre justice, quelqu'un qui se base sur ce qu'il fait et ne fait pas, qui a un cœur fermé et dur, sans miséricorde, sans amour, et qui juge les autres. Mais ce qui est le plus grave, c'est qu'ils sont aveugles sur eux-mêmes. Ils ne se rendent pas compte comment ils sont pécheurs. Ils se croient justes. Ils ne reconnaissent pas leurs péchés. Comme il est dit dans Proverbe 32, il y a une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Je répète, il y a une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Ces hommes étaient aveugles sur eux-mêmes. Tout était basé sur l'apparence, ce qui paraissait vis-à-vis des autres. Et pourtant, Jésus, à plusieurs reprises, les a prévenus. À plusieurs reprises, il a mis le doigt sur leurs problèmes. Jésus a voulu les prévenir, et à plusieurs reprises, il les a prévenus. Si je regarde Luc 11, 39, « Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, il emploie le mot, voilà, vous, pharisiens, quel est votre problème? Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. » Donc, on voit, Jésus a pris le soin d'enseigner ses pharisiens, ses propres justes, en disant, voilà, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais à l'intérieur, c'est plein de rapines et de méchanceté. Ou alors dans Matthieu 23, je ne vais pas citer tout le passage de Matthieu 23, mais si vous voulez le lire chez vous, il y a beaucoup de choses où le Seigneur dit des choses à ses scribes et ses pharisiens. Mais j'ai juste souligné le verset 27 et 28, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Vous paraissez beau, mais à l'intérieur, Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Voilà, Jésus met vraiment le doigt sur leurs problèmes. Un autre passage, Luc 16. Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Donc, Jésus met le point là. Tout ce que vous faites, c'est pour paraître. Mais à l'intérieur, dans votre cœur, c'est l'impureté, c'est l'iniquité, c'est la méchanceté, c'est l'hypocrisie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et le Seigneur l'a fait souvent. Et là, dans ce passage, le Seigneur dit, il regarde au cœur. C'est vrai, nous, on a tendance à regarder à l'apparence. Et même, on juge facilement à l'apparence. Oh tiens, vous avez vu celui qui est rentré, là? Oh là, je ne sais pas s'il est chrétien. Bien souvent, on juge sur l'apparence. Parce que l'homme regarde à l'apparence. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu sait ce qui se passe dans nos cœurs. Et il connaît notre cœur mieux que nous-mêmes. Dans Jérémie 17, il dit ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Voilà le problème de ce pharisien. Il avait donné son curriculum vitae devant Dieu, en disant, voilà ce que je ne suis pas et ce que je suis. Son exposé, mais il ne connaissait pas le besoin de son cœur, parce qu'il était aveugle par rapport à ce qu'il était. À un autre moment, Jésus a eu un problème avec ses pharisiens, parce que par malheur, ses disciples ne s'étaient pas lavé les mains, selon les rites des anciens. Et Jésus était obligé de leur dire quelque chose, et puis il y en a qui disent, mais tu sais, tu les as choqués. Mais Jésus va leur dire, dans Matthieu 15, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ça qui souille l'homme, c'est pas ce qui rentre. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Il ne se voit pas perdu. En fin de compte, sa prière n'est pas une prière. Comme je disais tout à l'heure, c'était son curriculum vitae. C'était son exposé. Il n'a aucune demande. Il n'a pas besoin de la grâce de Dieu. Il est satisfait. En lui-même. Il n'a rien à demander à Dieu. Au contraire, il se vante de ce qu'il est. Il y a 15 jours de cela, Mathieu m'a accompagné à la maison d'arrêt de Fleury. Vous savez, tous les 15 jours, je prêche à la maison d'arrêt de Fleury. Et il m'a accompagné pour faire son témoignage. Puis, bon, il fait son témoignage. Et puis, à un moment donné, il dit dans son témoignage qu'il était perdu et que maintenant, il est sauvé. Et puis, un détenu, il dit, mais comment tu peux dire que tu étais perdu? Comment tu peux dire que tu étais perdu? Et c'est vrai que, à vue humaine, personne ne se voit perdu. Vous allez faire un sondage dans la rue, les gens vont dire, mais moi, je suis pas mal. Moi, j'ai ni tué ni volé, donc je mérite le ciel. Ça se résume à ça. Et puis, bien souvent, on se compare aux autres en disant, ah, mais moi, je suis pas comme celui-là. Hein. Ah, si vous connaissez celui-là, bon, alors lui, il mérite l'enfer, mais moi, non, ça va, moi, il n'y a pas de problème. Ouais, tant que le cœur est fermé, tant que les gens sont aveugles sur leur propre cœur, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu, qu'ils ont besoin du pardon de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et quand l'Esprit de Dieu vient et touche nos cœurs et nous montre notre péché, ben là on le voit. On voit notre misère. Et on le voit avec ce publicain. Ce publicain qui monte au temple et il n'ose même pas lever les yeux. Et là, on voit, il se tient même à l'écart. Et il se frappe la poitrine. Là, tout le siège des sentiments, tout là où est le péché, il se frappe la poitrine, il dit, « Oh, pitié de moi, Seigneur. Oh, pitié. Je suis un homme pécheur. » Il voit sa misère. Il voit qu'il mérite la mort. Et là, il demande grâce. Il demande la miséricorde. Il demande que Dieu intervienne dans sa vie. Et le Seigneur répond. Et le Seigneur répond. Parce qu'il est dit ceci. Je vous l'assure, lorsque ce dernier rentra chez lui, il était déclaré juste aux yeux de Dieu, mais pas l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il a reconnu la plaie de son cœur. Il a reconnu qu'il était un pécheur. Il a reconnu son péché. Et un beau passage dans 1 Roi 8:38, vous savez, Salomon avait, lors de la dédicace du temple, avait fait une grande prière. Et le Seigneur a dit, j'exauce ta prière. Et dans cette prière, il est dit ceci. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure. Pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Voilà. Si je reconnais la plaie de mon cœur ce matin, si je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je mérite la mort. À cause de mes péchés, parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Si je le reconnais et que je demande grâce, Dieu fera grâce. La conclusion de ce passage, mais c'est pas fini, c'était « Car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. » Passage de Jacques aussi, il nous dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et dans l'épître de Jacques, il y dit ceci. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Si je vous posais la question ce matin, est-ce que vous êtes chrétien? Vous allez me dire oui. Oui, parce que je suis là. Ça ne veut rien dire. Vous pouvez être là et pas être chrétien. Et si votre vie chrétienne se résume entre faire et pas faire, vous êtes complètement à côté. Je dis bien, si votre vie chrétienne se résume entre faire et pas faire, vous êtes à côté. Parce qu'on pourrait reprendre cette parabole en disant, je te loue, Père, car je suis un chrétien. Je fais pas comme ceci, je fais pas ça, je fais pas ça. Mais je vais à l'église, je prie, je lis ma Bible. Si votre vie chrétienne, c'est des interdits et des permissions, la vie chrétienne, c'est plus que ça. Parce que, comme dit dans Colossiens chapitre 2, verset 20, si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impostons ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. La chair, c'est dans le sens mon moi. Moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je lis la Bible. Et je peux même comparer avec des autres chrétiens. Vous savez, je peux être un très légaliste en étant chrétien. Et quand il y a le légalisme, il y a aussi la dureté de cœur et le jugement des autres. Moi, je suis mieux que lui. Ça m'est arrivé une fois, deux rétrogrades, ils étaient tombés tous les deux dans le péché. Puis un jour, un des rétrogrades est venu me voir et me dit, moi, je suis moins pécheur que lui quand même. Je suis tombé moins loin. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Si votre piété, vous savez, qu'est-ce qu'il est dit? Ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. C'est qui me donne la force? Qui me donne la vie pour vivre la vie chrétienne? Et ce n'est pas faire et pas faire, mais ce qu'il a fait, lui, qui est la base de ma vie chrétienne. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la chair. Personne. Mais notre vie est justifiée grâce à ce que Christ a fait. Et ma base de ma vie chrétienne est c'est ce qu'il a fait, lui, et non pas ce que moi j'ai fait ou pas fait. Retenez juste cela. Pas ce que moi je fais ou pas fait, mais ce que lui, il a fait. Voilà la base de ma vie chrétienne. Et c'est beau quand on lit 2 Corinthiens 5:21, il est dit, celui qui n'a point connu le péché, Christ, il l'a fait devenir péché pour nous. Pourquoi? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà la base de ma vie chrétienne. Je me revêts de la justice de Dieu, non pas de ma justice à moi, par mes efforts, mais de sa justice à lui. C'est ça, la vie chrétienne. Et je pourrais faire cette prière. Seigneur, merci de ce que tu m'as sauvé. De ce que tu m'as arraché des puissances des ténèbres. que tu m'as délivré de mes péchés. Et j'ai besoin de ta grâce tous les jours, car sans toi, je ne peux rien faire. Mais je m'appuie sur tes promesses. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous voyez la différence de la prière ? Une dépendance totale. Tout à l'heure, je vous ai dit que je parlerais d'un autre pharisien. C'est Saul de Tarse. Saul de Tarse était un pharisien. Et lui-même pouvait se vanter. Il avait son curriculum vitae aussi devant Dieu. Et il le dit d'ailleurs, regardez. Mais on peut lire à partir du verset 1. Au reste, mes frères, Philippiens 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, vous voyez, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Et il résume, moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses, tout s'est exposé. Qui était pour moi un gain. Je m'en vantais. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue. Voilà ce pharisien qui a vu clair. Et qui ne va pas se vanter devant Dieu, parce qu'il va voir cela comme de la boue. Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Voilà ce qu'est la vie chrétienne. La justice qui vient de Dieu par la foi. Voilà ma justice. J'ai aucun mérite. J'ai pas à me glorifier. Et dire, je ne suis pas comme le reste des hommes. Moi, je suis sauvé. Les autres sont tous des perdus. Si tu es sauvé, c'est grâce à qui? C'est grâce à toi? Si c'est grâce à toi, t'es encore perdu. Non, je suis sauvé grâce à Christ. Et vous savez, quand nous faisons nos prières et que nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas une formule magique. Pourquoi on dit au nom du Seigneur Jésus-Christ quand on prie? Pourquoi on dit ça? Exactement. J'ai aucun mérite. J'ai pas à me vanter. Si je peux venir dans la présence de Dieu, c'est grâce à Jésus-Christ. Et si je demande quelque chose, c'est grâce à Jésus-Christ. Qui je suis, moi, pour demander quelque chose à Dieu? De moi-même? C'est par Jésus-Christ. Lui qui est ma justice. Lui qui est mon salut. Voilà. Vous voyez, bien souvent on dit au nom de Jésus, il faut le dire, on le dit. Mais il faut se rappeler que c'est un privilège. Quand on dit au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que nous ne pouvons pas venir au Père sans passer par lui. C'est lui qui nous a ouvert le chemin et c'est grâce à ce qu'il a fait que je peux m'adresser et demander quelque chose à Dieu. Donc, c'est important. Et la vie chrétienne, c'est la grâce de Dieu qui va m'enseigner. Parce qu'il est dit dans Tite, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ce n'est pas des commandements d'hommes, c'est la grâce de Dieu. Et quelqu'un qui a goûté à la grâce de Dieu, il ne va pas se vautrer dans le péché. Parce qu'il ne peut pas rester. Parce que le péché, il en a en horreur. Il n'a pas besoin de se mettre des règles. C'est que c'est évident. Parce que la grâce de Dieu, il a tellement expérimenté la grâce de Dieu qu'il ne va pas se vautrer dans le péché. Mais la grâce de Dieu est là pour nous accompagner tous les jours. Et c'est pour ça que la vie chrétienne se résume en ce que Christ a fait et vivre de lui. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui a reçu la vie. La Bible dit « Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus la vie. Mais celui qui a le Fils a la vie. » Et un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu la vie de Christ en lui. Et il va pouvoir vivre la vie chrétienne. Autrement, c'est impossible de vivre la vie chrétienne par nos propres forces. Si vous vivez votre vie chrétienne par vos propres forces, ça sera que des lois, que des choses que vous allez vous mettre, des restrictions que vous allez vous mettre, ou des choses que vous allez vous permettre. Ça, c'est pas cela la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est Christ en vous. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. » qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est ça la vie chrétienne. C'est vivre de Christ. Vivre de Christ jour après jour. J'ai besoin de lui. Si c'est pas lui qui vit la vie chrétienne en moi, je ne peux pas. Je tombe. Livré à moi-même, je peux pas vivre la vie chrétienne. Si je dis, moi je peux, je fais ceci, je fais cela, vous vous épuisez pour rien. Et vous êtes à côté. Et si vous avez goûté la miséricorde de Dieu, vous allez avoir une autre attitude par rapport à ceux qui sont à côté de vous. Vous n'aurez pas une attitude de jugement, ni un cœur dur. Mais au contraire, vous irez vers eux en disant, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Non pas avec une attitude de jugement, mais avec une attitude de compassion, d'attitude de miséricorde, parce qu'on aura goûté la miséricorde de Dieu. Celui qui a goûté la miséricorde de Dieu, il peut la transmettre. C'est pas comme celui qui, le roi, lui avait remis sa dette, qui n'avait rien compris à la miséricorde de Dieu, qui n'avait rien compris au pardon. Et quand il est sorti, il y avait quelqu'un qui lui devait un petit peu. Il lui dit, donne-moi cet argent que tu me dois. Puis l'autre dit, mais je peux pas, donne-le-moi. Puis il dit, non, je peux pas, prison. Et quand le roi a su cela, il a dit, toi si tu allais en prison, parce qu'il n'avait pas goûté la miséricorde, il n'avait pas goûté le pardon de Dieu. Et si je suis dur avec les autres, est-ce que j'ai vraiment compris ce qu'est la miséricorde de Dieu? Et si j'ai compris ce qu'est la miséricorde de Dieu, eh bien je vais avoir de la miséricorde pour ceux qui sont perdus. Je n'aurai pas une attitude de jugement. Mais au contraire, je vais prier pour eux, pour que Dieu fasse grâce et que d'autres, d'hommes et des femmes, se tournent vers lui. Est-ce que vous avez connu la miséricorde de Dieu? Si vous n'avez pas connu la miséricorde de Dieu et que vous vous voyez pécheur ce matin, tournez-vous vers lui. Pouvez-vous frapper la poitrine, dire oui, je suis pécheur. Je reconnais mon péché. Je reconnais que je suis perdu. Dites-lui et implorez sa grâce. Et si vous le faites, vous retournerez chez vous justifiés.